Les matins de France Culture.
Vue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour,
et ce matin, le feu et la fureur.
Oui, l'année 2018 vient à peine de commencer que déjà on ne parle une fois de plus que de lui. En quelques jours, grâce notamment à son utilisation compulsive de Twitter, Donald Trump a réussi en effet tout d'abord à déclencher une crise diplomatique avec les autorités pakistanaises qu'il a accusées de mensonges et a envenimé ensuite un peu plus encore ses relations explosives avec la Corée du Nord en se vantant d'avoir un bouton nucléaire plus gros que celui de son plus sérieux concurrent capillaire. Et puis plus anecdotique mais tout aussi absurde, le chef de la Maison Blanche s'est également attribué, toujours via le réseau social, les bons résultats d'une étude sur la sécurité du transport aérien annonçant qu'il y avait eu zéro mort en 2017, sauf qu'en réalité la dite étude prend en compte le monde entier et pas seulement les États-Unis, qu'aucune compagnie aérienne américaine n'a eu à déplorer de mort l'an dernier, pas plus que lors des 7 années précédentes. Et enfin, comme le souligne The Atlantic, en matière d'aviation commerciale, le gouvernement Trump n'a fait, quoi qu'il en soit, aucun changement aux règles de sécurité nationale depuis sa prise de fonction. Enfin, ultime épisode de cette deuxième saison de Trump à la Maison Blanche. Hier, dans un communiqué d'une extraordinaire virulence, le président s'en est pris à son ancien ami, ex-directeur de campagne puis conseiller Steve Bannon, souvent dépeint comme l'artisan de sa victoire, en l'accusant notamment d'avoir perdu la raison. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu susciter cette fois-ci chez le président une exaspération telle que même un tweet enragé n'était manifestement plus suffisant pour calmer son humeur? Réponse, la publication hier par The Guardian des bonnes feuilles d'un livre à paraître mardi prochain et intitulé « Feu et fureur ».
Et un livre qui, à en croire les réactions suscitées par la publication de ces extraits, porte en effet bien son nom, Thomas.
Oui, dans ce nouveau livre explosif, prévient The Guardian, le journaliste américain Michael Wolff, ex-chroniqueur au Journal de Londres, lève donc le voile sur une Maison Blanche voguant de crise en crise, théâtre de guerres intestines, et où même certains des plus proches alliés de Trump expriment aujourd'hui du mépris à son égard. Dans ce portrait au vitriol du locataire de la Maison Blanche, on apprend par exemple que l'un de ses plus anciens associés, l'un des plus anciens associés du président, le milliardaire Thomas Barrack Jr., aurait dit de lui qu'il n'était pas seulement fou, mais stupide. De quoi apporter un peu plus encore d'eau au moulin de Steve Bannon, lequel avait encore récemment déclaré dans une interview à Vanity Fair que l'intellect du président était comparable à celui d'un enfant de 11 ans. Dans un autre extrait du livre, publié cette fois-ci par The New York Magazine, Michael Wolff raconte également que le but de Donald Trump n'a jamais été de gagner l'élection, mais plutôt de devenir l'homme le plus célèbre du monde, et que son équipe de campagne elle-même ne croyait pas à sa victoire jusqu'au jour du scrutin. Ce soir-là, à mesure que la tendance inattendue que Trump pourrait finalement l'emporter se confirmait, le fils du candidat républicain aurait lancé un ami que son père ressemblait à quelqu'un ayant vu un fantôme et que Melania, elle, était en larmes, mais que ce n'était pas des larmes de joie. Alors on passera sur les révélations de la fille, cette fois-ci du président Ivanka, sur les secrets peu flatteurs de la chevelure de son père, et puis surtout Steve Bannon est donc largement cité dans cet ouvrage. Dans une citation en particulier, il accuse directement le fils du président américain, mais aussi son gendre, Jared Kushner, et son directeur de campagne de l'époque, Paul Manafort, d'avoir commis une trahison en rencontrant une avocate russe qui prétendait leur offrir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Même s'il ne pensait pas que c'était un acte de trahison ou antipatriotique ou juste un coup foireux, et pour moi c'était tout ça à la fois, ils auraient dû appeler le FBI immédiatement, confie Steve Bannon. De son côté, la Maison Blanche a donc aussitôt dénoncé dans un communiqué des comptes rendus faux ou fallacieux de la part de l'auteur du livre et attaqué dans le même temps Steve Bannon, l'accusant donc d'avoir perdu la raison. Bannon prétend avoir de l'influence, mais c'est seulement pour leurrer quelques personnes qu'il l'aide ensuite à écrire des livres bidons, peut-on lire encore dans le communiqué. Et de préciser encore, il a passé son temps à la Maison Blanche à leur faire passer de fausses informations pour apparaître plus important qu'il n'était. C'est la seule chose qu'il sache faire.
Enfin, direction Thomas, l'Allemagne, où le feu et la fureur sont également de mise sur Twitter.
Oui, l'affaire racontée ce matin par la correspondante du Temps a commencé par un tweet de bonne année posté par la police de Cologne et orné d'une photo. On y voit la cathédrale de la ville sur fond de feux d'artifice, assorti d'un texte souhaitant la bonne année à tout le monde. Un texte rédigé en allemand, en anglais, en français et en arabe. Et c'est donc cette dernière version qui a provoqué sur Twitter une avalanche de messages haineux de la part du parti d'extrême droite AFD. La représentante de l'aile chrétienne fondamentaliste du parti a été la première à réagir. Pourquoi la police publie-t-elle désormais ses messages officiels en arabe? Pensez-vous ainsi amadouer les hordes de barbares, musulmans et violeurs en réunion? Alors jusqu'à dimanche dernier, ce tweet n'aurait sans doute pas attiré davantage l'attention que les multiples messages provoquants déjà postés par les membres de l'AFD, sauf que depuis le lundi 1er janvier, une nouvelle loi sur les réseaux sociaux est entrée en vigueur en Allemagne. menaçant Twitter, Facebook, YouTube et co. de verser jusqu'à 50 millions d'euros d'amende s'il ne retire pas du web sous 24 heures tout contenu pouvant inciter à la haine. Et c'est ainsi que le tweet anti-migrant de la députée a donc été supprimé. Son compte Twitter a par ailleurs été fermé pendant 12 heures. Une mesure qui a aussitôt suscité une deuxième polémique, notamment du côté des magazines satiriques comme Titanic, qui craignent pour la liberté d'expression. Le journal qui tentait de poursuivre le débat sur le mode de la parodie a vu son compte Twitter suspendu à son tour pendant 12 heures. Et puis dans les rangs de l'opposition, le parti néo-communiste Die Linke a lui dénoncé cette nouvelle loi qui, dit-il, confie à des monopoles d'Internet le soin de trancher entre haine, satire et liberté d'expression.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.